Sandrico.
Alors la réforme des retraites, bon, on verra ça l'année prochaine. Hein. Emmanuel Macron décale d'un mois la présentation de la réforme au 10 janvier, prenant tout le monde de court, y compris dans son camp. Ça devient une habitude hein, chez Emmanuel Macron. Je crois que sur les RER, ça avait été un petit peu le même mécanisme. Alors, est-ce de la prudence présidentielle? Est-ce que cela signifie que la négociation avec les syndicats pourrait payer si on lui laissait quelques jours, quelques semaines de plus? Est-ce qu'il veut du temps, le président, pour mieux réformer ou bien c'est une reculade? On en parle ce matin avec François Calfon, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Et Mathieu Bock-Côté, essayiste auteur. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
On dira un mot aussi des insoumis parce que ça barde un petit peu en ce moment de chez eux. Mais d'abord, Emmanuel Macron, je donne le prénom. Je me fais rabrouer quand je ne donne que les noms. Apparemment, ça, il se ménageait cette possibilité de décaler la présentation. Comment vous regardez cette surprise? Parce que c'est une surprise présidentielle.
Hein. J'y vois surtout le jeu de la surprise d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire un homme qui aime surprendre justement et qui aime se sentir qu'il sait surprendre et peut reprendre en main le jeu politique, étonner ses adversaires, briser les règles et ainsi de suite. Donc il avait annoncé un agenda, toute la société s'y préparait, la classe politique s'y préparait et hop, il sort du chapeau de magicien un nouvel agenda, un nouvel horizon. Dans la réalité des choses, j'ai l'impression que c'est le signe moins d'un président habile et agile que d'un président presque assiégé. Je ne dirais pas impuissant.
C'était pas génial comme calendrier quand même.
Là, je ne dis pas le contraire.
Plein mondial de foot, à 2 jours des vacances scolaires, 10 jours de Noël, etc.
Je suis d'accord avec tout ça, mais le fait est que puisque c'était annoncé, programmé, que la vie politique ne peut pas se rythmer strictement selon les cas de la vie sportive et ainsi de suite, et on voit un président qui, je crois, croit sans le moindre doute avec raison à son intelligence, mais croit exagérément à sa capacité de surprendre comme s'il était encore le jeune président étonnant de 2017. Aujourd'hui, donc, il reprend des vieilles ruses, des vieilles méthodes, mais ça paraît pour le commun des mortels et pour les observateurs comme vieilles ruses et vieilles méthodes. Il nous dit « je veux donner le temps aux Verts et aux écolos, dis-je, et aux LR, parce qu'ils ont une nouvelle direction, de s'adapter justement, de voir s'ils peuvent se mettre d'accord avec nous. » Dans les faits, pour l'instant, j'y vois surtout une espèce de coup de poker, un coup de bluff, mais qui aura peu d'effet.
Alors, on rend des trucs bizarres. Hein. Olivier Marleix, TLR, dit « si c'est la retraite à 65 ans, nous, on ne signera pas ». C'est exactement ce que défendait Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle. Comprend qui peut. Comment vous regardez ce déplacement, ce réajustement du calendrier, François Calfon?
Écoutez, je crois que le roi est nu, hein, d'une certaine manière. Les astuces...
C'est de l'inquiétude, vous pensez?
Oui, et puis on prétend toujours voir, finalement, chez nos dirigeants, une forme d'astuce suprême, etc. Je pense que les nuages s'accumulent, y compris dans sa propre majorité. Parce que vous savez, c'est les trois L, hein, lécher, lâcher, lyncher. Donc on n'en est pas à lyncher dans sa majorité, mais on est quand même un peu à lâcher. On voit bien les coups de tonnerre.
Attendez,
qui
lâche Emmanuel Macron?
Un peu quand même, la droite, vous venez de le dire, hein, qui était quand même le soutien sur les réformes de droite assez automatique.
Oui, qui n'est pas officiellement dans la majorité quand même.
Non mais d'accord, mais enfin, il ne vous aura pas échappé qu'à l'Assemblée nationale, il manque un petit peu de monde. Et surtout, puisqu'ils ont déjà annoncé le canon du 49-3 en rattachant de manière assez misérable d'ailleurs à une loi de finances rectificative cette réforme des retraites.
C'est pas fait ça, François.
C'est la négociation. Mais parce qu'ils n'ont pas de majorité.
C'est un scénario possible.
Donc, et surtout au sein de la majorité, même le MoDem qui commence finalement à ruer dans les brancards. Alors derrière, il y a quoi? Il y a une accumulation de nuages qui peut préparer un orage. Le problème de l'énergie, le problème de l'inflation, le problème de l'hôpital, le problème du Covid.
La fin de la ristourne de carburant.
La fin de la ristourne de carburant, et puis quand même cette guerre qui continue en Ukraine. Donc on voit bien qu'on est à l'os, hein, d'une certaine manière. Et pourquoi? Pour une réforme des retraites dont, moi, je rappelle que nous en avions fait une sans mettre une personne à la rue, c'est la réforme Touraine, qui est marquée du sceau d'une inégalité profonde, hein, puisque finalement, ceux qui ont travaillé le plus tôt, qui ont eu les carrières les plus longues, et en fait, c'est eux qui ont supprimé la pénibilité au travail, seront ceux qui seront les plus sanctionnés. Oui. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les catégories populaires, et je peux vous dire que sur le terrain, elles sont réellement inquiètes de, finalement, ce qui apparaît comme un coup de rabot supplémentaire au peu de cadre social et de sécurité sociale au pluriel qu'il aurait octroyé.
Il y a le risque, c'est vrai, d'un scénario à l'anglaise. Aujourd'hui, c'est un genre de grève terrible en Angleterre. Vous avez tout le monde ferroviaire qui va s'arrêter. Dans de nombreux secteurs, on lève le pied, on se met en grève dans les hôpitaux, comme ça ne s'est jamais vu depuis un siècle. Mais la question qui se pose, et on entend ça, Mathieu Bock-Côté, pourquoi traîner, après tout? Surtout qu'on sait que ça va mal se passer, cette réforme.
Ah, mais je suis absolument d'accord. C'est-à-dire, le pourquoi traîner, c'est ce à quoi je faisais référence au tout début. C'est-à-dire, Emmanuel Macron cherche à reprendre la maîtrise du récit médiatique. Donner l'apparence du président magicien qui peut changer les cartes en acceptant de reprendre emporter l'agenda. Bon, il y a cet élément. Ensuite, je pense que la volonté de piéger un peu les LR qui fait partie du... C'est-à-dire, on voit Éric Ciotti qui s'est fait élire sur le mode « je suis celui qui ne coopérera jamais avec Emmanuel Macron ». Et là, on espère construire cette réforme des retraites avec l'appui de la droite. Donc, d'une certaine manière, piéger les LR au moment où ils cherchent à se distancier une fois pour toutes de la Macronie. Ça, je pense que ça fait partie du petit calcul à court terme. Mm-hmm. Mais si on revient au fond des choses, la question, et je le dis avec une forme de distance étrangère là-dessus, la réforme des retraites est un enjeu vu de loin, qui est un enjeu qui est devenu une espèce de monstre symbolique dans la vie politique française. Mmh. Normalement, une réforme des retraites, c'est une réforme plutôt technique.
Ça fait six ans qu'on en parle.
C'est une réforme actuarielle. C'est une réforme où on se dit, bon, globalement, combien de temps les gens vont vivre? Ouais. Ils vivent plus longtemps. Ils doivent travailler plus longtemps. On peut essayer de faire en sorte que les dernières années soient des années moins pénibles, des années où on transition justement ce qu'on appelle quelquefois dans le monde nord-américain la pré-retraite. Bon, tout ça est possible, mais ce sont normalement des enjeux techniques. Oui. Et la culture politique française a la question des retraites pour en faire une question symbolique, quasiment une question identitaire.
Pardon, mais c'est quand même Emmanuel Macron lui-même qui s'est pris les pieds dans le tapis. Il avait, dans son premier mandat, voulu faire une réforme systémique, révolutionnaire, à laquelle personne n'a jamais vraiment rien compris, qui était inspirée de conversations qu'il avait eues avec la CFDT. Et c'était tellement complexe qu'il n'a pas réussi à la mettre en œuvre. Et là, il fait tout à fait le contraire. Donc ça, c'est peut-être l'astuce du passement de jambes macronien. C'était une réforme très rustique et qui n'a aussi qu'un but, non pas rassurer les Français, mais rassurer les marchés et rassurer Bruxelles, parce que, je le rappelle, on a un déficit public abyssal. Rassurer le FMI, puisque, je le rappelle, on a été rappelé à l'ordre comme un vulgaire pays en voie de développement.
Oh, ça arrive même au meilleur, hein, regardez les Britanniques.
Bien sûr. Mais voilà, et quand vous allez chercher finalement des marqueurs ailleurs pour couvrir vos propres turpitudes, et que c'est une réforme insincère, eh bien vous obtenez une ingouvernabilité finalement des comptes sociaux.
Le feuilleton retraite va donc se prolonger. Pendant ce temps, chez la France Insoumise, le parti a désigné ce week-end une nouvelle direction. Alors il fallait notamment remplacer Adrien Quatennens. C'est donc Manuel Bompard qui occupe ce poste de coordinateur national. Il fallait aussi peupler une nouvelle coordination des espaces. Alors en fait, c'est la direction du parti. Alors on va y retrouver Mathilde Panot, Manon Aubry, mais surprise, des figures très médiatiques, des historiques de LFI, Clémentine Autain, François Ruffin, Coquerel, Corbière, Garrido, sont absents. On décapite la vieille garde, Mathieu Bocoté.
C'est ce que plusieurs disent. Ce qui est assez fascinant, c'est quand on entend Clémentine Autain d'un côté et François Ruffin de l'autre, qui représentent des tendances non seulement opposées, mais presque conflictuelles dans la France insoumise, qui ont été chacun laissés de côté, en fait. Et les deux ont le même grief en disant c'est presque une logique de purge. C'est le parti qui se resserre autour du noyau dirigeant, autour du leader Maximo, qui par ailleurs est une figure insaisissable dans tout ça.
Jean-Luc Mélenchon.
Oui, évidemment. Donc il y a cette tendance, ça fait partie de la tradition des partis de la gauche radicale, c'est-à-dire des partis qui ne correspondent pas aux standards du parti démocratique. Ce sont des partis qui ont quelquefois une culture du secret, un parti assez autoritaire. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Mais c'est une logique de purge, alors que les différents éléments que vous évoquez en appelaient une ouverture du parti aux différentes tendances de la gauche.
Alors personne n'est mort, heureusement, mais purge ou pas?
Déjà, je vous annonce une chose, c'est que c'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2027, puisque dans cette fameuse purge, on a écarté les deux impétrants, François Ruffin, qui sur le tard est devenu social-démocrate, si ça vous a échappé. En fait, il dit qu'il faut traiter les catégories populaires, ce qui est quand même pas quelque chose de terrible.
C'est bien, il y a quelqu'un à gauche qui le dit. Enfin,
moi je le dis depuis longtemps, mais c'est vrai, j'avoue, à part votre écho, peut-être ne suis-je pas audible, n'est-ce pas? Et il y a Clémentine Autain qui dit encore plus de sociétalisme. Mais à l'arrivée,
de sociétalisme,
les questions de société. Mais elle l'a dit. Ce qu'elle a dit hier dans Libération.
C'est vrai.
Pardon d'avoir lu son interview. Et donc, elle dit, faut traiter encore plus les questions de société. La vérité, elle est terrible, c'est que vous avez un mouvement qui s'appelle la France Insoumise, dont personne ne peut vérifier le nombre d'adhérents, parce que tout cela est tenu secret, comme dans les bonnes organisations trotskistes.
Alors l'unité de base, d'ailleurs, c'est le groupe d'action à la France Insoumise.
Qui fonctionne par cercle concentrique. Mais si vous voulez faire un recours au Parti Socialiste, on fait un recours, on a une commission de recours, on a des votes, etc. Ils peuvent toujours sonner à l'adresse Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, ou Raquel Garrido, ou Alexis Corbière, ou François Ruffin. Il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de démocratie.
C'est pas un parti.
Il n'y a pas de congrès. Ah ben non, mais c'est,
ah ben c'est le
culte du chef.
Non,
c'est formidable parce que vous dites la référence au parti communiste qu'on connaît dans ces pays-là. Formellement, au moins, il y a des statuts, au moins, il y a un congrès, au moins, il y a une démocratie. À la France insoumise, pas du tout. Et d'ailleurs, vous avez vu que la seule vraie réaction du cœur révolutionnaire de la France insoumise à la une de Clémentine Autain. Toute une mobilisée pour nous nuire. Voilà le tweet de Jean-Luc Mélenchon suite à finalement la une de Clémentine Autain.
Alors Le Monde, c'est un parti autoritaire et insaisissable avec cette formule ensuite de Manuel Bompard qui dit, quand on dit mais les élections dans la France insoumise, je préfère le consensus, et dit-il, l'élection n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Ah ben nous sommes rassurés pour lorsqu'ils prendront le pouvoir.
Merci à tous les deux. Mathieu Bocoté, François Calfon, excellente semaine à tous les deux. On vous retrouve avec plaisir.